et à la fin du mois, l'un d'entre eux, avec lequel vous n'avez pas spécialement de relation, d'affinité ou de lien, mais ce collègue va quitter la boîte, il va démissionner. Et d'autres collègues organisent une cagnotte pour lui offrir un cadeau de départ. Et ils vous demandent combien vous allez mettre dans la cagnotte. Vous réfléchissez, bon, le collègue, franchement, vous ne le connaissez pas beaucoup. Bon, vous pensez mettre 10 euros. Mais entre-temps, vous apprenez que les autres collègues ont mis entre 30 et 50 euros. Bon, pour ne pas passer pour le radin de la boîte, et pour être bien vu des autres, parce que peut-être qu'aussi un jour vous allez partir aussi, et ils vont vous faire un cadeau, bon, alors à votre tour, vous mettez aussi 40 euros. Alors comment est-ce que vous qualifieriez cette action, ou cette réaction, ce geste? Comment? Hypocrite. Ok, on retient ce mot-là, c'est une action hypocrite. 3 mois plus tard, un autre collègue quitte la boîte. C'est un collègue avec qui vous vous entendiez super bien. Vous mangiez tous les midis ensemble quasiment, vous faisiez du sport ensemble une fois par semaine avec lui. Sa femme et ses enfants étaient devenus vos amis et ils étaient devenus les amis de votre femme et de vos enfants aussi. Vous les voyez en dehors du travail, c'était vraiment un super bon collègue. Alors avec d'autres collègues, vous organisez une cagnotte pour son départ, pour lui offrir un cadeau. Et vous n'hésitez pas une seconde et de bon cœur et spontanément, vous initiez la cagnotte en mettant 100 euros. Alors, comment qualifieriez-vous cette action et ce don?
C'est sincère.
C'est sincère. Sincère, généreux, spontané, c'est fait de bon cœur. Et quelle est la différence fondamentale entre ces deux situations? 60 euros, ouais. Autrement, quelle est la différence fondamentale entre les deux? La relation avec les collègues. Dans le premier cas, l'action n'était pas faite de tout cœur parce que je n'avais aucune relation ou alors une faible relation avec l'autre personne. Et j'ai plutôt agi à cause du regard des autres et non pour faire plaisir aux collègues. Donc j'ai été hypocrite, oui. Mon action envers lui reflétait la relation, faible relation que j'avais avec lui. Et dans le second cas, ben, l'action a été faite de tout cœur parce que j'avais une relation personnelle et profonde avec lui. Et j'ai agi pour son plaisir, sans me soucier du regard des autres. Mon action envers lui n'était pas hypocrite et elle reflétait la relation personnelle que j'avais avec lui. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Les versets 1 à 18, pour découvrir qu'on est capable d'agir de la même manière avec Dieu. Matthieu 6, versets 1 à 18. Je lis dans la version second 21. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors ce passage est long, et on pourrait enseigner 4-5 fois dessus en faisant des sous-sections, mais je crois que l'ensemble de ce passage a une vérité importante à nous dire. Et c'est celle que j'aimerais qu'on découvre ensemble ce matin. Et dans ce passage, Jésus aborde notre manière d'obéir à Dieu. Il le fait en prenant 3 actes d'obéissance qui sont les actes d'obéissance traditionnels de la foi juive, l'aumône, la prière, le jeûne. Mais nous pouvons étendre l'enseignement de Jésus à tous les actes d'obéissance que nous faisons et que nous pratiquons pour Dieu. Et le principe de base, qui est décliné ensuite pour chaque acte d'obéissance, il est introduit au verset 1. Alors, le principe de base, il est introduit avec le verset 1. « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. » Ça, c'est le principe de base que Jésus va décliner ensuite sur le trio aumône, prière, jeûne. Et il va montrer à chaque fois ce que font les hypocrites pour obéir à Dieu. Puis il va nous expliquer comment les disciples sont appelés à obéir sans hypocrisie. Et en le faisant, il va nous expliquer d'où vient le problème de l'hypocrisie. Et ensuite, en faisant un focus sur notre relation avec Dieu, Jésus va nous révéler ce qui est fondamentalement différent entre l'hypocrite et le non-hypocrite. Donc c'est les 3 parties que je vous propose de découvrir ensemble. Alors, premièrement, découvrons avec Jésus à quoi ça ressemble quand nous obéissons à Dieu avec hypocrisie. Alors, quand nous obéissons à Dieu avec hypocrisie, à quoi ça ressemble? Dans la culture juive de l'époque, l'aumône, c'est ce qu'on voit au verset 2, c'est faire un don à quelqu'un, en particulier aux pauvres. Mais on peut étendre ce geste d'aumône à tout don qu'on fait, tout don d'argent qu'on fait par obéissance à Dieu. Les dons qu'on fait à l'église locale, à l'église universelle, à des œuvres caritatives pour les plus démunis, etc. Alors, comment faire un don avec hypocrisie? Si vous voulez le faire, eh bien ici dans le texte, il faut sonner de la trompette devant nous, dans les synagogues et dans les rues. C'est une image pour illustrer que d'une manière ou d'une autre, l'hypocrite claironne, fanfaronne. Il montre bien à tout le monde qu'il fait un don. Son but, c'est d'attirer l'attention sur lui afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Que ce soit les croyants dans la synagogue ou les incroyants dans les rues. Il claironne, il veut se montrer à tout le monde, je suis en train de faire un don. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est pour ça que dans cette église, il n'y a pas de trompette. Comme ça, quand le panier d'offrande va passer, vous n'allez pas pouvoir sonner de trompette. Mais c'est pas grave, on peut quand même être hypocrite en faisant notre don quand le panier va passer. Parce qu'on peut faire teinter les pièces pour qu'on les entende bien. Hypocrite. Alors, vous comprenez le principe. Et j'ai trouvé une illustration en fait qui actualise encore plus à notre époque cette obéissance hypocrite de l'aumône. Voici donc Matthieu 6, verset 2, en version français populaire. Donc, c'est Jésus qui parle, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Au mieux, ça informe quoi? 12 personnes maximum. Au lieu de ça, publie donc ta bonne action sur les réseaux sociaux. Ainsi, tous ceux qui te connaissent pourront voir comme tu es bon et juste. Tant que tu indiques combien tu es béni, hashtag béni ou hashtag humble, de faire de bonnes choses pour les autres, personne ne pensera que tu cherches à attirer l'attention. Voilà un moyen moderne de sonner de la trompette devant nous et d'avoir les regards braqués sur nous afin de recevoir la gloire des hommes, ou plutôt afin de recevoir les likes des hommes. Alors, on n'est pas tous sur les réseaux sociaux, mais nous sommes certainement tous tentés d'agir avec hypocrisie, d'agir pour être vu des hommes, en particulier dans ce domaine de l'aumône, à chacun de sonder son cœur. Et personnellement, moi, j'ai été repris et je me suis posé la question par rapport aux campagnes de financement participatif. Quand vous faites un don sur les plateformes de campagne de financement participatif, vous avez souvent en bas cette case à cocher qui dit quelque chose du genre « Je souhaite que le don que je viens de faire ne soit pas diffusé sur le site et reste donc anonyme. » Et vous devez décider si vous cochez ou pas. Rester anonyme ou pas. Et si je choisis de ne pas être anonyme, quelle en est ma motivation ? Est-ce que ça serait une manière de sonner de la trompette pour que d'autres puissent voir que j'ai fait un don à Porte Ouverte ? Waouh, t'as vu dans la liste, JD, il a fait 100 euros pour Porte Ouverte. À réfléchir. D'autant qu'il y a de plus en plus, justement, d'œuvres chrétiennes qui utilisent ces plateformes de financement participatif, c'est pas mal en soi, hein, mais qui parfois utilisent aussi des méthodes à la limite de sonner la trompette devant soi pour stimuler les dons des uns et des autres. Alors voilà comment un acte d'obéissance à Dieu qui, à la base, implique uniquement moi et la personne à qui je donne, devient un acte d'obéissance hypocrite parce que j'inclus d'autres personnes dans l'équation. Alors passons maintenant à un acte d'obéissance qui implique moi et Dieu, la prière. Comment prier avec hypocrisie ? Alors le texte nous dit « Priez debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vu des hommes. » Et ce qui est embêtant avec cette prière, ce n'est pas qu'elle soit faite debout. Mais comme pour le moine, c'est qu'elle soit faite pour être vue des autres, pour impressionner les autres par notre religiosité, pour montrer qu'à l'heure fixée, trois fois par jour, matin, midi et soir, l'hypocrite prie. La prière, ça devient alors un exercice religieux routinier qu'on fait en étant à demi conscient. On le fait uniquement à des moments fixés, à des occasions fixées, mais en fait, on n'a aucun réel désir à prier Dieu, on n'a aucun réel besoin véritable de prier Dieu. On dit notre prière vite fait, et puis basta, on le fait pour la forme. Et en y réfléchissant, c'est assez simple de prendre cette position d'hypocrite debout pour être vu des hommes concernant la prière. Lorsqu'on discute entre frères et sœurs, glisser innocemment, mais pas si innocemment que ça dans notre tête, qu'on se lève à 5h30 chaque matin pour prier avant toute autre activité. Hypocrite. Lorsqu'on prie en public, modifier nos prières pour plaire à ceux qui nous entendent et nous voient, faire de belles tournures de phrases pour rendre nos prières jolies, avec des mots très spirituels pour paraître encore plus spirituels que ce que nous sommes réellement, c'est super facile à faire. Mais c'est totalement hypocrite. Parce que ça détourne la prière sur nous, alors que la prière devrait être tournée et centrée uniquement sur Dieu. La prière, ça implique moi et Dieu, et là encore une fois, je la détourne de manière hypocrite en incluant d'autres personnes dans l'équation. Et comment pratiquer alors le jeûne avec hypocrisie ? Alors là, avec le jeûne, on arrive au comble de la subtilité de l'homme, parce qu'il faut savoir que le jeûne, c'est un acte qui applique moi et moi seul. Il n'y a aucun commandement à jeûner dans le Nouveau Testament. Donc le jeûne, c'est un acte volontaire et personnel que je décide de faire pour Dieu. Et les autres personnes ne sont donc pas censées être au courant que je jeûne. Et à l'inverse de l'aumône et de la prière, qui sont des actes ponctuels, à plus ou moins court terme, de courte durée, et pour lesquels on peut facilement s'arranger pour être vu des autres. Imaginez, il est 15h-10, tiens, je vais aller faire une balade comme ça à 15h, à l'heure de la prière, je vais pouvoir prier dans le parc devant tout le monde. Mais le jeûne, c'est pas un acte ponctuel et de courte durée. En général, à l'époque de Jésus, le jeûne durait au moins un jour, et les plus religieux de l'époque, donc les pharisiens, le pratiquaient deux fois par semaine. Et en plus, jeûner, donc c'est-à-dire ne pas manger, s'abstenir de manger, en tout cas à l'époque, là, eh ben ça se fait chez soi. Pas dans la rue, pas dans les synagogues, c'est chez soi qu'on mange. Alors là, l'hypocrite, il a un problème. Parce que chez lui, il a personne pour le voir jeûner. Qui va l'applaudir pour sa religiosité ? Mais ça n'arrête pas l'hypocrite. Pour bien montrer à tout le monde qu'il jeûne, il prend un air triste. Il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'il jeûne. Et d'ailleurs, il semble même qu'à l'époque de Jésus, les jeûnes, donc qui étaient 2 jours par semaine, les pharisiens avaient choisi les jours de jeûne en choisissant les jours de marché dans la ville. Donc comme ça, il était encore plus loué et admiré par les hommes. Tout le monde allait faire ses courses et allait acheter à manger, mais lui, il jeûnait. Il est doué, l'hypocrite. Et encore une fois, je fais entrer les autres dans l'équation d'un acte qui est normalement individuel, et voilà que je transforme cet acte en acte hypocrite. Mais franchement, ça fait réfléchir. L'hypocrisie, elle existe depuis le début de l'histoire humaine. Et est-ce qu'on n'a pas tous été un jour ou l'autre, et encore maintenant, hypocrite ? Est-ce qu'on n'a jamais fait un acte pour Dieu dans la subtilité, en pensant à inclure d'autres personnes dans l'équation afin d'être remarqué et glorifié par les hommes ? Je vous donne un exemple qui, je l'avoue, est tiré de mon expérience personnelle. Se lever 30 minutes avant tous les autres animateurs dans un camp pour être trouvé au réveil des autres animateurs en train de lire la Bible et de prier. Ça, c'est super spirituel. Ça marche même dans les week-ends d'église. Hypocrite. J'ai déjà obéi à Dieu avec hypocrisie pour être vu des hommes. Et je dois encore lutter avec l'aide de Dieu contre ça. Nous obéissons à Dieu avec hypocrisie quand nous faisons entrer dans l'équation le regard des autres, le fait de vouloir être vu des autres. Et en agissant ainsi, nous aurons comme seule récompense celle que peuvent nous donner les hommes. La reconnaissance des hommes, les applaudissements des hommes, les félicitations des hommes, les honneurs des hommes, éventuellement des cadeaux des hommes, mais c'est tout ce qu'on aura. Nous n'aurons aucune récompense de la part de Dieu pour notre obéissance pratiquée avec hypocrisie. Rechercher les bénédictions des hommes nous prive de celles de Dieu. Alors, pour ne pas s'arrêter là-dessus, découvrons maintenant comment les disciples de Christ sont appelés à obéir sans hypocrisie. Et par là, découvrons aussi quel est le problème principal de l'hypocrisie. Et on pourrait s'attendre, en lisant tout ça, à ce que Jésus ensuite nous dise, nous donne des nouvelles règles concrètes pour pouvoir pratiquer correctement les disciplines sans hypocrisie. Par exemple, pour l'aumône, il aurait pu nous dire, mais toi, quand tu fais un don, assure-toi que personne ne te voit. Fais tout pour faire ton don de manière anonyme. Mais il ne le dit pas, parce que ce n'est pas ça le problème. Que quelqu'un me voit faire un don, ou que l'Église sache combien je donne tous les mois à l'Église, ce n'est pas ça le problème. Et pour la prière, pareil, il aurait pu nous dire, mais toi, quand tu pries, agenouille-toi, ou jette-toi par terre. Mais il ne le dit pas, parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas de prier debout. Le problème, ce n'est pas de prier à heure fixe. Pour le jeûne, il aurait pu nous dire, mais toi, quand tu jeûnes, jeûne plutôt en fin de mois, là où tout le monde, de toute façon, a du mal à trouver à manger, et comme ça, tu te fondras dans la masse. Mais il ne le dit pas, parce que ce n'est pas ça le problème. Jésus ne précise ni commandement, ni méthode, ni lieu, ni moment particulier pour jeûner. Alors, quel est le problème ? Et comment ne pas être hypocrite en obéissant à Dieu ? Donc on découvre tout ça dans les paroles de Jésus. Pour l'aumône, Jésus nous dit que notre main gauche ne doit pas savoir ce que fait notre main droite. Le problème, il est entre moi, ma main droite, et moi, ma main gauche. Le problème de l'hypocrisie, ce n'est pas la forme. C'est ce qui est au fond de moi. Le problème de l'hypocrisie, c'est mon cœur. Le problème, c'est quand ma main droite donne, mais que ma main gauche retient une partie de mon don ou attend quelque chose en retour de mon don. Dans ce cas, notre geste n'est pas sincère. Il n'est pas honnête, il n'est pas spontané. On sent qu'il y a de la duplicité, du calcul. Et on ne donne pas de bon cœur et généreusement. Par exemple, imaginons, nous voyons un besoin particulier dans la rue. Notre main droite y répond dans l'amour, en sortant le premier billet qui vient de notre porte-monnaie. Mais notre main gauche nous retient parce que quand même, ça fait beaucoup de donner tout ça. On va changer de couleur. Tenez, c'est tout ce que j'ai. Hypocrite. Mais l'hypocrisie peut aussi avoir lieu quand on attend quelque chose en retour du don. Notre main droite donne avec amour à un frère de l'Église, mais notre main gauche n'oublie pas notre don. J'espère qu'il se souviendra de mon geste quand j'aurai besoin de lui également. Vous voyez ? Notre cœur n'est pas entier dans l'acte de donner. Il est partagé. Et quand il est partagé, c'est hypocrite. Et c'est ce qu'on voit aussi avec la prière. Jésus dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Dans la prière, il n'y a que toi et ton Père à être impliqué. Dans la prière, notre cœur s'ouvre pleinement et uniquement à Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément prier seul ? Non. On a des exemples et des invitations dans la Bible à prier en commun, en communion avec d'autres. Et d'ailleurs, la prière que Jésus va donner ensuite comme exemple commence par « Notre Père ». Donc, d'autres croyants peuvent être présents pour prier ensemble cette prière. Parce que même si nous prions en public, avec d'autres personnes, nous pouvons avoir ce cœur à cœur avec le Père. Même s'il y a d'autres personnes autour de moi, je peux être réellement et profondément enfermé dans ma chambre, dans la seule présence de Dieu. Mais il y a de la sagesse dans les paroles de Jésus. Si nous sommes tentés de poser pour la galerie lorsqu'on fait des réunions de prière communes, mieux vaut peut-être pour un temps prier dans un lieu plus privé et discret pour que notre cœur soit pleinement tourné vers Dieu et Dieu seul. Et c'est pareil avec le jeûne. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. L'important, ce n'est pas l'aspect extérieur que Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au plus profond de toi, dans le lieu secret, au cœur. Dans le jeûne, dans la prière, dans l'aumône, dans notre obéissance à Dieu de manière générale, l'important, ce sont les dispositions de notre cœur qui doivent être entièrement et uniquement tournées vers Dieu. La clé d'une obéissance à Dieu sans hypocrisie, c'est notre cœur. Parce que plus tôt, dans son discours sur la montagne, Jésus justement a donné cet ordre aux disciples. Il leur a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc le problème, ce n'est pas que les autres voient ou pas mes actes d'obéissance à Dieu. Le problème, ce n'est pas qu'on me voit faire un don, ce n'est pas qu'on me voit prier, ce n'est pas qu'on me voit jeûner. Ce n'est pas le problème. Le problème et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'obéis à Dieu dans le but d'être vu des autres ou pas ? Si nous agissons ainsi, alors notre acte d'obéissance à Dieu est marqué par l'hypocrisie et Dieu le rejette. Mais si nous agissons de tout notre cœur pour Dieu, avec la bonne raison, la bonne motivation, alors l'hypocrisie ne marque pas notre acte d'obéissance et Dieu l'accepte et cet acte lui fait plaisir. On obéit à Dieu sans hypocrisie quand on obéit de tout notre cœur. Quand on obéit avec un cœur entier, intègre, juste, avec un cœur qui n'est pas à la fois tourné vers les hommes et tourné vers Dieu. On obéit à Dieu sans hypocrisie quand notre cœur cherche à plaire à Dieu et non aux hommes, quand notre cœur cherche la gloire de Dieu et non la gloire des hommes. Et dans ces cas-là, Jésus nous assure que nous aurons notre récompense de la part de Dieu. Dieu bénira fidèlement et immanquablement ceux qui obéissent avec un cœur entier. Comment le fera-t-il? Quand le fera-t-il? De quelle manière le fera-t-il? Sur terre ou dans le ciel? Ce n'est pas précisé, mais il le fera. Maintenant, vous avez remarqué, peut-être, qu'on a parlé de l'aumône, de la prière, du jeûne, mais qu'il y a tout un passage de ce texte qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas parcouru, les versets 7 à 15. Et à vrai dire, cette section du texte nous interroge. Pourquoi est-ce qu'il y a un développement particulier entre la prière et le jeûne? Il aurait pu simplement parler de l'aumône, de la prière et du jeûne en un seul bloc, mais là, il y a un développement particulier. Qu'est-ce que ce développement veut nous apprendre? Mais je pense qu'à travers ce développement, ce focus, Jésus nous révèle ce qui est fondamentalement différent entre l'hypocrite et le non-hypocrite. Et ce qui est fondamentalement différent, c'est leur relation avec Dieu. Parce que ce focus, nous allons le voir rapidement, il parle effectivement de la relation que nous avons avec Dieu. Et donc la vérité fondamentale que nous fait comprendre Jésus à travers tout ce passage, c'est que notre obéissance à Dieu reflète notre relation avec lui. La manière dont j'obéis à Dieu reflète la relation que j'ai avec lui. Tout comme dans l'exemple de l'introduction avec les pots de départ pour les collègues. La manière dont j'agis pour l'un des collègues ou pour l'autre dépend de la relation que j'ai avec lui. Et notre obéissance à Dieu reflète notre relation avec lui. On est tous appelés à avoir une relation avec Dieu. Jésus-Christ, on l'a chanté aussi, Jésus-Christ est venu dans le monde pour que nous retrouvions cette relation avec Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. On est tous appelés à avoir une relation avec Dieu. Et ici, Jésus développe la relation que nous sommes censés avoir avec Dieu. Il va nous donner différents aspects de cette relation. Au verset 7 et 8, il est question d'avoir une relation sincère avec Dieu. Les hypocrites n'ont pas de relation sincère avec Dieu. Ici, ils multiplient les paroles, ils blablatent, ils répètent sans cesse la même phrase, ils cherchent à informer Dieu, à le persuader et à l'amadouer pour que Dieu puisse les exaucer. Mais les hypocrites ne sont pas sincères avec Dieu parce qu'ils croient que Dieu n'est pas sincère avec eux. Ils font comme les autres peuples, ils pensent que Dieu est comme les autres dieux païens, capricieux. Mais le disciple de Christ n'a pas à les imiter dans cette relation avec Dieu, car nous savons que Dieu est notre Père qui sait de quoi nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Alors on se présente devant Dieu sincèrement pour lui ouvrir notre cœur entier, même s'il sait déjà ce dont nous avons besoin. Il veut nous entendre parce qu'il veut une relation sincère avec nous, parce que lui nous aime sincèrement. Il veut nous entendre. Et notre obéissance sincère à Dieu reflète notre relation sincère avec lui. Et dans l'exemple ensuite de la prière, ce qu'on appelle le Notre Père, on découvre d'autres facettes de notre relation avec Dieu. Avec les mots « Notre Père Céleste », on découvre une relation père-enfant. Notre obéissance en tant qu'enfant de Dieu reflète notre relation avec Dieu le Père Céleste. Avec les mots « Que la sainteté de ton nom soit respectée », nous découvrons la relation divinité-adorateur. Avec les mots « Que ton règne vienne », nous découvrons la relation souverain-sujet. Avec les mots « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous découvrons la relation maître-serviteur. Lorsqu'on obéit et qu'on fait la volonté, enfin nous obéissons à sa volonté parce que nous sommes ses serviteurs et nous reflétons par là notre relation avec lui, le maître. Avec la partie « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous découvrons la relation bienfaiteur-bénéficiaire. Avec la partie « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », nous découvrons la relation sauveur-pécheur. et avec la partie « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », nous découvrons la relation guide-pèlerin. À chaque fois que nous lui obéissons, nous reflétons l'un ou l'autre de ces aspects de notre relation avec lui. Et les versets 14 et 15 reflètent, enfin, nous font part d'un autre aspect de la relation avec Dieu. Ces versets 14 et 15 nous appellent à une relation sans entrave avec lui. Ce qui entrave notre relation avec Dieu, c'est notre péché. Le disciple de Christ est pardonné définitivement par Dieu le juge. Mais dans tout ce passage qu'on a lu, Matthieu 6, 1 à 18, Dieu a toujours été présenté comme Dieu le Père, ton Père. Dieu, nous entretenons, nous, une relation avec Dieu le Père quand nous sommes disciples. Et comme tous les jours, nous ratons la cible de la sainteté de Dieu, tous les jours, nous avons besoin de son pardon pour garder une relation sans entrave avec lui. Et c'est pourquoi Jésus nous dit de prier quotidiennement « Pardonne-nous nos offenses ». Et il ajoute « Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et les versets 14 et 15, là, précisent sa pensée. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Alors le principe, il est simple et clair, mais il fait énormément réfléchir. Si nous avons pardonné aux autres, Dieu le Père nous a pardonné et il n'y a pas d'entrave dans notre relation. Si nous n'avons pas pardonné aux autres leurs fautes, nous ne sommes pas pardonnés par Dieu le Père et notre relation est entravée. Nous sommes sauvés par Dieu le juge, mais nous ne sommes pas pardonnés par Dieu le Père et notre relation, elle se ternit et elle devient de moins en moins belle avec Dieu le Père. C'est simple et clair. Mais en ce qui concerne le pardon, il est parfois très dur de faire le bien que nous voulons, le bien que nous savons, et il est beaucoup plus facile de faire le mal que nous ne voulons pas faire et de ne pas pardonner aux autres. Et pourtant, nous avons reçu le pardon du Dieu saint et parfait. Refuser de pardonner aux autres alors que nous sommes pécheurs, c'est inadmissible. C'est un comble. Et ça nous empêche de connaître le plein pardon de Dieu le Père. Ça entrave notre relation avec lui et ça entrave donc aussi toutes les bénédictions que nous pouvons recevoir de sa part. Et lorsque nous obéissons à l'ordre de pardonner aux autres, eh bien cela reflète notre relation avec Dieu qui nous a pardonnés. Notre obéissance à Dieu reflète notre relation avec lui. Faire un don pour obéir à Dieu sans avoir de relation avec lui, ça n'a pas de sens pour Dieu. Prier sans avoir de relation avec Dieu, ça a encore moins de sens. Et jeûner sans avoir de relation avec Dieu n'a aucun sens. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on a le focus de la relation avec Dieu juste avant le jeûne. Parce que tel qu'il est présenté dans la Bible, le jeûne est toujours associé à une relation profonde avec Dieu, qui se manifeste particulièrement par la prière. On peut prier sans jeûner, mais on ne peut pas jeûner sans prier. Le jeûne biblique fait toujours partie d'une relation profonde avec Dieu, d'une profonde préoccupation pour Dieu, pour sa volonté, pour son œuvre. Et s'il n'y a pas cette relation quand on jeûne, ben le jeûne c'est juste un rite religieux, un rituel religieux qui n'a aucune valeur aux yeux de Dieu et qui n'est d'aucune efficacité. Alors notre obéissance à Dieu reflète notre relation avec lui et je vous laisse avec ces quelques questions. Où est-ce que j'en suis dans mon obéissance à Dieu? Vous vous examinerez chez vous. Est-ce que mon obéissance à Dieu vérifie effectivement cette affirmation en reflétant l'état de ma relation avec Dieu? On peut prendre la question en sens inverse aussi. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Et est-ce que, effectivement, ma relation avec Dieu se vérifie dans l'obéissance que j'ai avec Dieu? Faible relation, faible obéissance à Dieu. Forte relation, intimité, forte obéissance à Dieu. L'hypocrisie, elle est dangereuse parce qu'elle est trompeuse. elle utilise des choses qui sont fondamentalement bonnes, l'aumône, la prière, le jeûne, mais elle les utilise à des fins qui sont fondamentalement mauvaises. Et c'est pour ça que l'hypocrisie est dangereuse pour l'Église, parce qu'elle mine la puissance de l'Église, elle mine le témoignage de l'Église. Et vous avez peut-être déjà entendu cette remarque qui est faite, les chrétiens, ce sont tous des hypocrites. Mais c'est pour ça que Jésus ne veut pas d'hypocrites dans son royaume et qu'il nous appelle à voir nos cœurs. Et un peu plus tard, dans son discours sur la montagne, Jésus dira « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors que notre cœur soit entier, soit proche de Dieu, pour que l'obéissance que nous lui rendons reflète notre relation profonde avec lui. Je vous invite à prendre quelques secondes de silence, puis je conclurai par la prière. Notre Père Céleste, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai agi avec hypocrisie en ton nom, pour toutes les fois où je t'ai obéi, mais en incluant aussi le regard des autres, en cherchant à être vu par les autres, en ayant un cœur partagé qui ne te rendait pas toute la gloire. Je te prie par ton esprit qui habite en moi, en nous, de venir encore purifier mon cœur pour que mon cœur soit pleinement entier devant toi. Je te prie de m'aider à entretenir une relation profonde avec toi, une relation qui soit sincère, une relation qui soit sans entrave. Révèle-moi s'il y a des personnes auxquelles je dois aller demander pardon, des personnes auxquelles je dois pardonner. Aide-moi à vivre une relation sans entrave avec toi, une relation qui soit pleine. Aide-moi, s'il te plaît, à vivre une relation qui reflète que je suis ton enfant, que tu es mon père, que je suis ton esclave et que tu es mon maître, que je suis ton sujet et toi mon souverain, que tu es celui dont j'ai absolument besoin pour vivre. Tu es mon bienfaiteur et j'ai besoin de toi. Aide-moi à vivre tous ces pans de la relation, à développer ma relation avec toi, pour que mon obéissance ne soit plus marquée par l'hypocrisie. Je te prie de venir purifier mon cœur, de venir purifier nos églises, pour que nos églises ne soient pas marquées par l'hypocrisie, pour que ton église soit belle, pure, sans tache, sans hypocrisie, le jour où tu reviendras la prendre. Et pour que nos églises sans hypocrisie puissent briller, rayonner dans la cité, puissent témoigner fidèlement et puissamment de l'œuvre que tu fais dans la vie de chacun. Merci Jésus-Christ d'être venu sur terre pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous puissions avoir une relation profonde avec Dieu le Père. Et je te prie pour tous ceux qui n'ont pas encore cette relation profonde avec toi, je te prie que tu les aides à te découvrir, Seigneur Jésus, que tu les aides à voir qui tu es et ce que tu attends d'eux et de leur cœur. Merci d'agir en nous, non pas pour notre propre bien, mais pour ta gloire, pour ta majesté, pour ta beauté, pour que ton nom soit encore exalté et loué parmi nous et autour de nous. Amen.